Shalom, la science dans la pensée du Rav Kook est un sujet extrêmement important et nous allons aujourd'hui aborder quelques aspects de l'approche qu'a le Rav Kook de la pensée scientifique et de la recherche scientifique. Alors tout d'abord, il faudrait, parler de ce sujet d'un point de vue plutôt populaire. En effet, une interrogation que l'on retrouve beaucoup au niveau populaire, c'est comment accorder les découvertes de la science avec les enseignements de la Torah. Cette question qui pourrait sembler tout à fait incongrue n'est pas une question banale étant donné qu'elle a préoccupé beaucoup de monde dans l'histoire, y compris dans le monde chrétien qui avait des difficultés à admettre les développements de la recherche scientifique. Nous savons tous le traitement qu'a reçu Galilée à cause de ses connaissances scientifiques. Et là, je voudrais, parler de deux sujets qui préoccupent parfois la conscience religieuse. C'est ce qu'on appelle l'âge du monde et l'origine de la vie. En effet, le présupposé de beaucoup, c'est qu'il y aurait une contradiction entre la Torah et la science, la Torah affirmant que le monde est vieux de un peu moins de 6000 ans, alors que les scientifiques parlent de 15 milliards d'années, et également que l'origine de la vie serait sujet à controverse, étant donné que pour les scientifiques, l'homme, comme on dit, descend du singe, pas vraiment, mais enfin, c'est un peu de ça dont il est question, et la Torah parlerait d'un homme créé à partir d'un morceau de terre. Et en vérité, il y a ici une erreur profonde qui se retrouve à travers différentes approches. Et là, je voudrais, avec votre autorisation, parler de 6 approches différentes que je vais diviser en 3 parties. 4, 1 et 1. Les 4 premières opinions sont les suivantes. La première opinion dit que, étant donné que la Torah et la science sont en contradiction, il faut donc adopter l'opinion de la Torah et rejeter celle de la science. Ça, c'est la première opinion. Et donc, du point de vue de cette opinion, le monde a vraiment 6000 ans et l'homme ne descend pas du singe. La deuxième opinion affirme que, étant donné que la science et la Torah sont en contradiction, c'est donc que la Torah a tort et qu'il faut adopter la position scientifique. Si on se rend compte, en fait, ces deux opinions, l'une, celle des croyants, l'autre, celle des incroyants, en fait, sont basées sur le même présupposé, qui est qu'il y a une contradiction entre l'enseignement de la Torah et les résultats de la recherche scientifique. La troisième opinion, ainsi que la quatrième, essaye de faire une conciliation. C'est-à-dire que, pour la troisième opinion, non, la Torah et la science ne sont pas contradictoires, parce qu'en fait, la Torah dit ce que les scientifiques affirment. C'est-à-dire, par exemple, que les auteurs de cette opinion-là vont amener des sources kabbalistiques et autres, comme quoi le monde est vieux de plusieurs millions ou même de milliards d'années, ou bien ils amèneront des preuves tirées de différents textes comme quoi l'évolution darwinienne est admise par la Torah. Ça, c'est la troisième opinion qui essaie de faire une conciliation entre la Torah et la science au profit des résultats scientifiques. La quatrième opinion dit la même chose sans dire vraiment la même chose, c'est-à-dire que la science et la Torah ne sont pas contradictoires. Eh bien, au contraire, on peut prouver scientifiquement que le monde n'est vieux que de 6000 ans, on peut prouver scientifiquement que les évolutionnistes ont tort et que l'homme ne descend pas du singe. Voilà, ce sont les 4 opinions que l'on trouve dans la voie publique, qui sont dans le marché des opinions. Ces 4 opinions ont toutes un présupposé, le même en fait, qui est que la Torah et la science parlent de la même chose. Si la Torah et la science parlent de la même chose, Alors, évidemment, on peut se poser la question de savoir s'il y a contradiction, selon les deux premières opinions, ou s'il y a accord entre les deux opinions, entre les deux branches, selon la troisième et la quatrième opinion. Mais en fait, tout le monde est d'accord pour dire que la Torah et la science parlent de la même chose. Or, c'est une erreur. L'erreur est très simple, c'est qu'en fait, la science nous décrit le fonctionnement du monde, tandis que la Torah nous parle de la signification, du sens profond du monde. Donc non seulement il ne peut pas y avoir de contradiction entre ces deux domaines, il ne peut pas y avoir de contradiction entre la Torah et la science, mais j'irai même plus loin, il ne peut pas y avoir d'accord entre la Torah et la science. Parce que la Torah et la science, bien qu'employant les mêmes termes, ne parlent pas de la même chose. Quand par exemple nous parlons de l'âge du monde, cette question est une question d'ordre moral. Quand est-ce que commence pour nous la création? Eh bien la réponse est, la création commence à partir du moment où il y a une distinction morale entre le bien et le mal. Tout ce qui se passe auparavant concerne les scientifiques, mais ne concerne pas la Torah. De même, pour ce qui est de l'origine de l'homme. L'homme a une origine divine du point de vue de son âme. Il a une origine naturelle du point de vue de son corps. Or, la manière dont ce corps est apparu à partir de la nature n'est pas un sujet qui est traité par la Torah. Donc, la question de savoir comment est-ce que la vie est apparue, la vie biologique est apparue sur Terre, n'est pas une question de la Torah. Donc, on peut dire qu'en fait, il y a ici une confusion dès le départ. Ni la science, ni la Torah ne parlent de la même chose. La cinquième opinion dit exactement ce que nous venons de dire. La cinquième opinion, qui est d'ailleurs... l'opinion qui prévaut dans la pensée d'un moderne, le professeur Ishaq Leibovitch, c'est que la science et la Torah appartiennent à deux domaines tout à fait différents l'un de l'autre, et que donc il n'y a pas à poser de questions ni d'accord ni de désaccord entre la Torah et la science. Cette opinion, qui est séduisante à première vue, en fait ne peut pas être celle de la Torah pour une raison très simple. C'est que c'est le même créateur qui est à l'origine de la science et qui est à l'origine de la Torah. Le Dieu qui a créé la science et la nature qu'il a, dont elle est le sujet, c'est le même Dieu qui a donné sa Torah et qui a révélé son opinion aux hommes. Et donc, on ne peut pas parler de divorce total entre les deux domaines malgré tout. C'est ce qui nous amène finalement à l'opinion du Rav Kook sur ce sujet. L'opinion du Rav Kook, la sixième opinion, et je vous le dis tout de suite, c'est la bonne, c'est qu'en fait, il faut comprendre ça de deux points de vue. Tout d'abord, le premier point est qu'il n'y a pas de rapport entre la science et la Torah. Deuxièmement, qu'il y a un rapport profond entre la science et la Torah. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a une sorte de contradiction entre les deux phrases. Mais en fait, ce n'est pas du tout la même chose. Quand nous disons qu'il n'y a pas de rapport entre la science et la Torah, c'est au niveau des faits, de l'analyse, des détails, des résultats, de la recherche scientifique. Mais quand nous disons qu'il y a un rapport profond, c'est au niveau de la contribution de l'évolution scientifique à l'esprit humain. En effet, le Zohar nous dit qu'à partir de l'année 5600, c'est-à-dire, selon le compte des chrétiens, depuis l'année 1840, le Zohar nous dit qu'à partir de l'année 1840, il y aura un grand développement de sagesse dans le monde et ce sera le moment pour le monde de se préparer à la nouvelle phase de l'histoire, ce qu'on appelle le septième millénaire. Eh bien, effectivement, quand on observe les faits, on se rend compte que depuis l'année 1840, il y a eu un très grand et profond développement scientifique dans l'histoire et que cela coïncide, comme par hasard, avec le moment de l'histoire où Israël revient à sa terre. Eh bien, ce n'est donc pas un hasard. C'est qu'en fait, le retour d'Israël à sa terre doit être une avancée, et pas simplement un retour nostalgique à une patrie perdue. Ça doit amener à une transformation de la conscience humaine, le retour des prophètes entre autres, et cela demande un élargissement de la sagesse. Et cet élargissement de la sagesse nous est donné justement par l'évolution scientifique. En effet, grâce à l'évolution scientifique, nous commençons de plus en plus à comprendre le monde dans lequel Dieu nous a mis. Et c'est là que la science vient à notre aide justement pour affirmer, d'un point de vue scientifique et expérimental, ce qui était connu par la voix des prophètes, qui est que Dieu est un. Comme on dit dans le fameux verset, « Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, l'Éternel est un », cela veut dire qu'il y a une unité fondamentale dans l'ensemble de la création. Et cette intuition, qui est une intuition monothéiste, a été développée chez les scientifiques à travers une influence du judaïsme, et elle a trouvé un de ses sommets dans la théorie einsteinienne. En effet, quand on a demandé à Albert Einstein qu'est-ce qui nous dit qu'il y a une unité des lois de la nature, il a répondu, eh bien, c'est une pétition de foi. En effet, c'est la foi monothéiste qui a finalement guidé l'évolution scientifique. C'est ce qui a permis à Newton, par exemple, qui, aujourd'hui nous le savons, étudiait la Kabbale et était versé dans ses enseignements, il a permis à Newton d'imaginer qu'il pouvait y avoir une équation qui expliquerait l'ensemble universel des lois du monde. Et ça s'appelle la gravitation universelle. Et de même pour ce qui est de l'évolution darwinienne. En effet, le Rav Kook ni ne rejette ni n'accepte la théorie darwinienne comme conclusion, étant donné que l'évolutionnisme appartient à la science, et donc c'est la science qui doit déterminer la validité de la théorie de l'évolution. Mais ce que dit le Rav Kook, c'est que grâce à la théorie de l'évolution, eh bien, le commun du peuple s'est habitué à une pensée évolutive. En effet, cette idée qui était connue uniquement des kabbalistes, les kabbalistes, eux, avaient développé toute une explication évolutive des mondes métaphysiques, mais maintenant, étant donné que le monde biologique également est considéré comme relevant d'une évolution biologique, eh bien, cela amène le commun du peuple à s'accommoder, à se familiariser avec la pensée évolutive. Effectivement, la Géoula, le retour d'Israël, la libération d'Israël, est également un phénomène évolutif, puisque dans le Talmud de Jérusalem, on nous dit que la libération d'Israël est un phénomène qui se passe petit à petit, kim'a, kim'a. Or, il est assez remarquable de voir que, en général, les cercles qui refusent l'évolutionnisme, pour des raisons religieuses, sont également les mêmes qui refusent le sionisme laïque comme facteur de la libération d'Israël, parce qu'ils n'admettent pas que la libération d'Israël se fasse par des voies naturelles. Ils attendent le surnaturel, ils attendent l'imprévu, un peu à la manière dont la création du monde est conçue par le commun du peuple comme étant un acte de baguette magique, alors que les kabbalistes nous ont enseigné que c'était un phénomène également évolutif. Et donc, si vous voulez, le Rav Kook non seulement accepte l'évolution scientifique comme avec optimisme, mais en fait, cela fait partie d'un énorme projet de la Providence qui veut réunir ensemble, dans une même synthèse, l'enseignement des prophètes et la sagesse humaine pour amener un élargissement de la conscience humaine qui va nous amener, qui va aboutir finalement à l'inauguration d'une histoire meilleure.